Voilà, comme chaque mercredi sur Radio Campus, c'est l'heure de Lille 1 Info, un magazine donc qui vous présente en général les activités de l'Université de Lille 1, les talents, les ressources. Mais aujourd'hui, on va élargir un petit peu le thème de Lille 1 à trois universités, puisqu'on va parler d'un projet qui intéresse ces trois universités de Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Un projet donc qu'on va définir dans quelques instants. Il parlera de l'avenir de ces universités et notamment de l'approche des lycéens par les responsables des universités de Lille 1, Lille 2, Lille 3. Vous êtes sur Campus 106,6 FM. Demain Université, donc c'est un projet qui rassemble trois universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3. Nous avons le plaisir d'accueillir pour Lille 1 Michèle Hochedet. Bonjour Michèle Hochedet.
Bonjour.
Donc vous êtes vice-présidente, vous occupez de la réussite des étudiants de Lille 1, c'est bien cela?
Oui, tout à fait.
Nous accueillons Christophe Mondou qui est chargé de mission, orientation à Lille 2. Bonjour Monsieur Mondou.
Bonsoir.
Et Georgette Dalle, qui est vice-présidente déléguée à la vie et à la réussite des étudiants à Lille 3. Bonjour.
Bonsoir.
Donc, effectivement, les occasions de se rencontrer, faire se rencontrer trois universités et les faire travailler ensemble, sont-elles rares?
Non, elles ne sont pas rares. On a de nombreux projets sur lesquels nous travaillons les trois universités, même de façon plus globale, l'ensemble des universités de la région. Mais là, c'était effectivement une belle occasion de travailler sur un projet commun qui est un projet en fait d'aide à l'orientation des lycéens vers l'université. Et comme nous avons un bassin de recrutement qui est à peu près le même et que les trois universités couvrent un champ de formation qui est, disons, très large et très peu concurrentiel, c'était justement l'occasion d'avoir cette approche en commun.
Voilà, donc ces universités se complètent, j'allais dire, parfaitement, et les territoires s'épousent l'un l'autre. Au-delà de ça, les élèves qui sont dans les lycées ont parfois du mal à définir leur projet, c'est peut-être normal à 16 ou 17 ans, hein. Et vous pouvez peut-être les aider, les conseiller sur laquelle de ces trois universités se destinent le mieux à leur projet d'avenir. C'est ça un peu l'idée?
L'idée, c'est de répondre à leur questionnement, de leur apporter un certain nombre d'informations, de les inciter, j'irais très très rapidement, à se poser des questions, à aller se renseigner, à aller rencontrer les enseignants, les enseignants-chercheurs, d'aller rencontrer des anciens de l'université, des anciens qui étaient dans les lycées avant. Et de façon à commencer à construire un projet, à se forger une idée sur leur poursuite d'études.
L'objectif, si je peux ajouter quelques mots, est également de montrer qu'on peut faire un choix positif en direction des universités publiques et avoir une réussite d'études, une réussite en termes d'insertion professionnelle, et que l'université n'est pas le dernier choix qui vient après le reste. Donc on essaye de porter une image positive des universités, non seulement en termes d'image simplement, mais parce que nous sommes convaincus, sans quoi nous ne serions pas là, je pense, qu'on peut avoir une très bonne réussite en milieu universitaire.
Christophe Mondou, sans parler de sélection, l'université étant ouverte à tous, a priori, à tout bachelier surtout, est-ce que vous suscitez néanmoins certains étudiants particuliers à venir vous rejoindre, vous à Lille 3 ou d'autres à Lille 2 ou d'autres à Lille 1?
Alors attention, je dirais là encore l'idée avec la sélection. L'objectif est d'informer le lycéen, d'orienter le lycéen vis-à-vis de son projet. Il est évident qu'en ayant les trois universités, ça nous permet en même temps de montrer la diversité et des formations et des débouchés. En conséquence de quoi, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est d'essayer d'attirer les étudiants qui correspondent avec un projet que nous pouvons proposer aussi sur l'île 1, 2 ou 3. Donc l'objectif n'est pas d'attirer tel ou tel étudiant, mais plutôt de se rendre compte qu'il a un projet qui va correspondre avec l'une des universités. Et les passerelles en même temps que nous pouvons mettre en place entre les universités doivent permettre justement de construire ce projet. Donc voilà, il n'y a pas d'enjeu de sélection. En revanche, on pourrait toujours dire que nous cherchons évidemment de bons lycéens et de bons étudiants, mais que c'est surtout au regard de leur projet essentiellement.
Alors c'est vrai que quand on dit bon étudiant, enfin chercher de bons étudiants, les critères de cette excellence d'étudiants sont un peu subjectifs on va dire, mais pour vous correspondent à la fois ce que vous enseignez dans vos établissements respectifs et puis aussi à l'idée qu'on se fait de, par exemple, de concepts comme l'autonomie d'un étudiant.
Oui, c'est me semble-t-il un des éléments importants, en tout cas pour l'université. Il y a au moins des éléments communs, quelles que soient les filières. Il est clair que l'université doit permettre aux lycéens d'apprendre cette autonomie. Il est entendu qu'il n'a pas forcément cette autonomie, et d'ailleurs on ne lui reprochera pas d'arriver en disant qu'il n'est pas encore autonome. Au moins nous mettrons à sa disposition un certain nombre d'outils, d'instruments qui doivent lui permettre d'acquérir cette autonomie. Et c'est quand même un des éléments essentiels qu'à la sortie, on puisse au moins dire il y a cet enjeu-là, l'étudiant est devenu autonome. C'est vraiment un des éléments. Après, c'est certain qu'il y a des spécificités par filière, mais qui sont là très, très conditionnelles en définitive. Mm-hmm.
Georgette Dalle, donc ces élèves que vous allez voir dans les lycées, cette notion d'autonomie, non seulement ils ne l'ont pas encore, mais est-ce qu'ils en ont vraiment une idée ? Ou au moins une idée de la nécessité ?
Je pense qu'ils en ont une idée, ne serait-ce que parce que les discours qui sont de plus en plus tenus dans les lycées consistent également à dire que le lycéen doit devenir autonome. Donc cette préoccupation, cette poursuite d'autonomie est quelque chose qui commence tôt, et plutôt qu'on ne se le représente, je pense, nous qui sommes dans les universités, c'est une demande récurrente de la part des lycées déjà. Une fois qu'on a dit cela, effectivement, lorsque le lycéen franchit le seuil de nos universités, il se retrouve a priori avec une grande plage de liberté que n'a pas le lycéen. Même le lycéen autonome en tant que lycéen peut se retrouver en situation un petit peu difficile dans nos universités à cause de cette plage de liberté à gérer. Et donc les outils que nous proposons sont des aides à la gestion, on va dire, de cette liberté, montrer qu'une liberté bien vécue est une liberté bien maîtrisée, qu'il faut s'imposer des contraintes de travail, des rythmes de travail. Et il est certain qu'un lycéen de 16 ans, de 17 ans, n'a pas forcément idée de ce que cela veut dire, tout simplement, parce que nous ne faisons pas forcément l'appel comme on peut le faire classiquement dans les lycées, même s'il peut y avoir ici ou là dans nos établissements des contrôles d'assiduité, ça n'est pas systématique. On n'a pas non plus ce contact direct avec les familles que le lycéen connaît, puisqu'un lycéen absent, éventuellement, c'est le secrétariat des établissements d'enseignement secondaire contacte les familles. Nous, évidemment, nous ne faisons pas cela, heureusement. Enfin, c'est le respect de la liberté aussi des individus. Nous avons affaire à des adultes. Donc non, même un lycéen autonome ne sait pas ce que veut dire autonomie pour l'université. Mais nous sommes là pour l'aider à la conquérir, à la maîtriser et à en faire un atout pour lui à la sortie, effectivement, de sa formation.
Alors justement, cette autonomie, peut-être du lycéen, bon, elle est encore en maturation, sinon en construction. On devrait normalement la retrouver de façon plus conséquente en L1, on va dire. En L2, en L3, elle devrait être naturelle. Est-ce que vous la constatez réellement avec les étudiants de L2 et L3, cette autonomie ? Est-ce que vous sentez encore qu'il y a un travail à faire ? Et notamment aussi, peut-être, c'est votre but de préparer les élèves déjà maintenant à cette idée pour que vos étudiants en L2 et en L3 aient davantage de capacités de cette nature.
Alors bien sûr, d'un étudiant à l'autre, cela peut changer, mais
toute évidence, un étudiant quand même qui a passé le cap de la première année, en deuxième année, il a quand même acquis des rythmes, il est quand même de plus en plus autonome. Néanmoins, on pense, enfin, je pense que on a un spectre de formation dans les universités qui est très très large, hein, et donc l'accompagner par exemple dans la construction de son projet, de son projet professionnel, et dans la construction de son parcours de formation, c'est un accompagnement qu'il me semble nécessaire tout au moins en licence. Voilà.
Donc cet accompagnement, est-ce qu'il favorise l'autonomie ou est-ce qu'au contraire il est là pour épauler et veiller sur la vie étudiante de cet étudiant, justement ?
Un accompagnement n'est pas une aide, et je crois que le choix du terme accompagnement n'est pas totalement anodin. L'étudiant reste acteur de sa recherche de stage, par exemple, de la construction de son projet professionnel, et les services de nos établissements sont là pour l'accompagner dans cette démarche. Ça veut dire aussi qu'un étudiant qui n'a pas besoin de cet accompagnement, qui se sent mûr pour effectuer cette recherche seul, peut la faire seul. Et donc, réellement, le choix entre le terme aide, accompagnement, n'est pas tout à fait anodin. Mmh. Et je crois sous le regard acquiescent, si je puis dire, mes deux collègues. Et je crois que nous partageons donc ce point de vue.
Donc, ce que vous visez, bien sûr, c'est la réussite, à la fois la réussite de votre université et la réussite des étudiants qui y entrent. Quelles sont les clés, les facteurs qui favorisent cette réussite pour les étudiants, tout d'abord ?
Tout va dépendre quand même des filières en même temps. Sur le plan purement universitaire au départ, il y a une compatibilité, on va dire, au regard des études qui sont à mener, pour lesquelles on va éventuellement là aussi accompagner l'étudiant sur un plan purement pédagogique, pour le coup, dans le champ disciplinaire, voilà, sur des matières données. Après, bien évidemment, la construction de son projet et sa future réussite dépend aussi d'un certain nombre d'éléments qui sont parfois liés à l'étudiant, qui peuvent porter sur son réseau ou sa façon d'avoir abordé les enjeux de sa future sortie. Tout à l'heure était évoquée la question des stages, et c'est vrai qu'on voit assez vite quand même sur le domaine des stages la différence entre deux étudiants, entre un étudiant qui est un petit peu passif sur cette question-là, ce qui peut être par ailleurs très brillant sur le plan de ses études, et puis un étudiant qui parfois peut être aussi brillant ou pas sur le plan de ses études, mais qui en revanche, sur un plan de construction de son projet vers les stages, vers les réseaux, a beaucoup plus de facilité. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est pas toujours évident de faire des comparaisons en termes de sortie au regard du cursus sur 3 ou 5 ans, parce que cette réussite sur un métier donné, par exemple, peut très bien dépendre soit de la qualité des études, soit de sa façon d'aborder la sortie sur ces problématiques. Donc c'est relativement variable.
Mm-hmm. D'accord.
C'est un peu plus basique, mais quand on rencontre les lycéens, un des conseils qu'on leur donne, c'est justement le fait d'avoir une plus grande autonomie en arrivant à l'université, c'est de venir régulièrement au cours. Et d'être là, de participer à tous les cours, les TD, les travaux pratiques. Ça, c'est une clé de la réussite. Si on est, disons, régulier dans sa façon, dans ses rythmes de travail, c'est une clé de la réussite.
Mmh. Est-ce que maintenant on peut parler de la réussite des universités ? Est-ce que vous visez une réussite, vous, en tant qu'université ? Et est-ce que ces étudiants-là, justement, vous aide à porter votre université vers le plus haut? C'est quand même un objectif, non?
Je pense que la réussite d'une université passe par la réussite de ses étudiants. Une université qui ne se donnerait pas cet objectif-là en ce qui concerne la formation, je ne parle pas ici de la recherche, ce n'est pas notre thématique, mais évidemment il y a ce pan de la recherche, mais une université qui n'a pas ce projet n'est pas une université qui peut réussir. Ça semble très, très, très naïf peut-être comme réponse, mais je crois que c'est le projet de chacune des universités. Et en ce qui concerne le projet Demain à l'université qui fait l'objet de nos propos ce soir, il ne s'agit pas de promouvoir l'une ou l'autre, ou la troisième de nos trois universités, mais vraiment de promouvoir l'université en tant que concept, l'université publique. Nous sommes délibérément sur ce champ-là, en tant que représentants de ces trois établissements pour la région lilloise. Et donc, il ne s'agit pas de faire réussir une de nos universités.
Donc, il y a 24, on va dire, lycées qui sont votre champ naturel de recrutement, c'est ça ?
Nous en serons à 24 dans un an et demi ou deux ans. Hein. Le projet a commencé de façon assez récente, donc nous ne sommes pas encore aux 24, mais c'est notre objectif.
Voilà. Néanmoins, vos universités accueillent des étudiants qui viennent d'ailleurs, même de l'étranger, bien sûr. Hein. Mais là, on est sur le champ régional, on va dire. Et donc, est-ce que ces lycées qui en fait sont votre future population, sont tous des lycées publics ?
En l'état actuel du projet, oui, parce que pour l'instant, dans la cible, nous n'avons choisi que des lycées publics. Il est évoqué dans le projet. L'enjeu n'a pas été, on va dire pour l'instant, jusqu'au bout, dans l'évolution qu'on puisse aussi travailler avec au moins un lycée privé. Bon, l'enjeu étant, on s'en doute, quand même relativement délicat sur les problèmes, là encore, de concurrence parfois entre lycées ou pas. Donc ça peut faire partie du projet et ce serait plutôt dans la deuxième phase du projet.
On peut quand même dire que l'université, vos universités sont ouvertes à tous les lycées, qu'ils soient du public ou du privé.
Bien sûr, bien sûr.
C'est toujours intéressant de le redire.
Nous le disons.
Très bien. Donc, qu'est-ce qui peut motiver des étudiants, on va dire du privé, à rejoindre des universités publiques ?
La qualité de l'université. On restera sur l'enjeu, non, mais là encore, quand j'ai évoqué l'idée que ça pouvait soulever des difficultés, c'est uniquement en termes du projet de ma l'université. Il est évident qu'il n'y a aucune difficulté dans nos universités à accueillir les lycéens venant des lycées privés. On fait de ce point de vue-là aucune différence. Hein. Et si un lycéen d'un lycée privé doit choisir, je pense qu'encore une fois, c'est sur le plan de la qualité. Nos universités ont différentes qualités dans leur domaine, y compris, tout à l'heure c'était évoqué, mais les enjeux de la recherche, puisque c'est quand même l'un des grands critères sur lesquels normalement on regarde la qualité aussi de l'université, la formation dépendant en grande partie de la recherche, ça fait partie des éléments que le lycéen doit regarder, quelle que soit son origine au final. Et il est évident qu'on peut très bien constater que nos trois universités sont chacune dans leur domaine relativement bien classées ou bien placées.
Alors ça c'est un élément nouveau, hein, cette idée de recherche. Pendant longtemps les étudiants venaient à l'université, ils ne savaient pas forcément pour combien d'années. Maintenant, Michel Hochedet, on a des études statistiques avec l'exposition que vous avez réalisée pour le SUIO pour l'instant. Il y a des sociologues qui sont penchés sur la question et qui ont observé que de plus en plus d'étudiants envisageaient des études longues au moins à Bac plus 5.
Oui.
Donc ça change la donne pour vous, de savoir que vous accueillez des étudiants pour beaucoup plus longtemps et sur des projets de formation, voire de carrière plus pointus.
Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant quand un étudiant entre à l'université avec un projet de longues études et un projet qui va jusqu'au master, bien évidemment. On accueille différents étudiants qui ont des projets qui sont à Bac plus 2, à Bac plus 3, à Bac plus 5. L'essentiel, c'est de réussir son projet. Bien sûr, pour l'université, c'est intéressant également d'accueillir des étudiants qui ont un projet à Bac plus 5. Mmh.
Donc ça, c'était le constat sur l'île 1. Est-ce qu'à l'île 2 et l'île 3, vous avez ces mêmes phénomènes d'étudiants qui, peut-être aussi par le fait du chômage, hein, envisagent des carrières d'étudiants, on va dire, de plus en plus longues?
Je ne sais pas si le phénomène est récent. Je crois que je serais un peu dans l'incapacité de répondre à cela. Je ne sais pas s'il y a 5 ans ou s'il y a 10 ans, un étudiant n'avait qu'un projet d'études à court terme. Donc je n'ai pas de chiffres qui permettraient d'asseoir ça. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est de l'impression. Je ne vois pas vraiment de différence relativement à ça. La difficulté, j'aurais presque envie de prendre le contre-pied de ce qu'on vient de dire partiellement. La difficulté que l'on peut ressentir pour les lycéens actuellement, c'est de se projeter sur du long terme. Pas se projeter sur des études sur le long terme, mais de façon générale dans leur vie de lycéen, se projeter sur le long terme. On observe dans tous les champs de la vie quotidienne une accélération du temps, un raccourcissement du temps par les nouvelles technologies, un certain nombre de moyens de communication, qui fait que quand on a 16 ans, 17 ans ou 18 ans, se dire « je veux encore faire des études 5 ans », c'est quelque chose de très difficile à concevoir, me semble-t-il. Et j'aurais presque envie de dire, mais là encore une fois, ça n'est appuyé sur aucune statistique, sur aucune étude ce que je vais dire, j'aurais presque envie de dire que c'est peut-être encore plus difficile maintenant que ça ne l'était il y a quelques années. Ce qui n'empêche pas qu'on accueille des étudiants qui se projettent quand même à Bac plus 3 ou à Bac plus 5. Les deux ne sont pas incompatibles.
Pour ce qui est de l'île 2, les filières sont naturellement des filières longues. Donc globalement, je dirais, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est peut-être parfois même un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un petit peu créé des filières plutôt courtes pour arriver éventuellement aussi à satisfaire la demande d'étudiants qui auraient pu souhaiter sortir à Bac plus 3. Mais les différentes études, en raison des filières, encore une fois, hein, simplement qui sont sur l'île 2, sont des filières longues. Donc voilà, là aussi, la donnée est un petit peu différente.
Là, on sort d'un long moment de manifestation, de contestation, de grève, etc. Est-ce que le fait d'imaginer une carrière professionnelle qui se conclut au moins 2 ans plus tard, ça peut engager des jeunes à poursuivre des études plus longuement ?
Nous sommes quoi ? Très difficile de répondre à cette question. Enfin,
pas de données.
Non.
Pas de données.
Non.
Bon. Donc, pour des lycéens qui ont déjà dans leur tête l'idée qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, on est à peu près d'accord quand même là-dessus. Hein.
Oui.
D'accord ?
Oui. On est d'accord.
Malheureusement, on va dire. Mais peut-être que ça peut changer par la suite. Hein. Mais est-ce que ça ne leur donne pas maintenant, justement, l'idée de profiter du temps possible pour se former le mieux possible et de manière la plus durable possible ? Je vais reprendre la question dans ce sens.
Je vais peut-être pas répondre à votre question, mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant de faire comprendre à un jeune, c'est qu'il ait un projet, qu'il aille là où son projet veut bien le mener. Si c'est du bac plus 2, c'est bien. Si c'est du bac plus 3, c'est bien. Si c'est du bac plus 5, c'est bien. Si... Mais néanmoins, qu'il a toujours, et ça c'est une information qu'on leur donne et un conseil qu'on leur donne, c'est qu'il y a toujours la possibilité de revenir en formation, de capitaliser ses expériences, ses expériences personnel, professionnel, pour revenir valoriser cela dans des diplômes et donc revenir en formation. C'est la formation tout au long de la vie. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à nos étudiants. On va prendre un exemple, les étudiants qui font une licence professionnelle. La licence professionnelle, donc, c'est une finalité à Bac plus 3 et insertion professionnelle immédiate. Ces étudiants-là peuvent se projeter et avoir un projet d'études en master. Mais ils ont la possibilité donc de partir travailler, d'avoir une expérience professionnelle et de revenir à travers la validation des acquis professionnels, de revenir sur un master. Donc ça, c'est vraiment la formation tout au long de la vie et c'est quelque chose qu'il faut essayer de valoriser.
Alors justement, cette formation tout au long de la vie, elle est d'autant plus réaliste, réalisable, qu'au départ, cet étudiant a, j'allais dire, une culture relativement large, et une capacité d'adaptation. On parlait aussi d'autonomie tout à l'heure. Comment vous voyez les choses ?
Oui, ça fait partie des critères là aussi, quand on regarde les retours d'étudiants sortis il y a quelques années sur un niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3, parce qu'encore à l'époque, par exemple, le DEUG permettait de sortir et éventuellement de trouver un certain nombre d'activités professionnelles. Bon, ces étudiants reviennent maintenant assez souvent quand même, alors différents mécanismes, puisque différents dispositifs sont possibles. En même temps, c'est vrai que ça reste quand même des étudiants qui ont pu à ce moment-là être attirés par le milieu universitaire et la possibilité de continuer à se former. Je ne suis pas toujours certain, en tout cas dans mes filières, là aussi, que nous ayons accès forcément à toute catégorie d'anciens étudiants. Peut-être des étudiants qui avaient déjà un début, la plupart du temps, de quelque chose, d'études universitaires, qui n'avaient peut-être pas pu aller très loin à ce moment-là, pour des raisons diverses, parfois privées, professionnelles, et qui après sont revenus chez nous, en tout cas dans les filières qu'on peut constater pour l'île 2.
Alors, en même temps, on sent en ce moment une incitation à participer à l'apprentissage, à relancer un peu ça. C'est un peu antinomique avec une formation de base complète, non ?
Non, enfin, le mélange formation d'apprentissage et formation universitaire, j'ai enfin, plutôt envie de dire qu'au contraire, ça se complète assez bien maintenant. Mm-hmm. Les étudiants sont d'ailleurs très intéressés, quelle que soit la formule de cette alternance, on va dire, très intéressés parce que ça leur permet en même temps de combiner les études théoriques, et ils nous reprochent parfois, entre guillemets, d'avoir des études trop théoriques, et pour le coup d'avoir ces études théoriques, mais en complément de pratique, vraiment sur le terrain, en entreprise ou chez un employeur public, peu importe. Donc non, je trouve que globalement, ça se combine assez bien avec les études universitaires, même générales. Pas forcément absolument professionnalisantes, on va dire, même des générales.
Le constat, les remarques sont les mêmes, je pense, pour ce qui est l'université Lille 3. Je crois que les personnes qui reviennent, qui optent pour ce type de formule, sont contentes d'allier théorie et pratique, parce que, comme vient de le préciser Christophe Mondou, un reproche qui peut être fait parfois à nos formations, c'est d'être par trop théorique, mais au contraire, la pratique et le fait d'être en situation professionnelle réelle montrent à nos étudiants que parfois la théorie peut être utile, et avoir une distance par rapport à l'activité professionnelle est aussi un plus. Donc là, en même temps, la théorie nourrit la pratique et la pratique nourrit la théorie. Donc on a ce double mouvement qui est tout à fait intéressant avec ce type de proposition que nous faisons de plus en plus dans nos universités.
Merci Georges Adal. Pour conclure, Michel Ojdé.
Je voulais compléter cette information, à savoir que c'est quand même une réussite de nos universités de plus en plus de proposer à la fois, enfin, tout type d'alternance, que ce soit l'apprentissage ou, disons, l'alternance par contrat de professionnalisation. De plus en plus, les licences professionnelles sont proposées en alternance, et même les masters, les écoles d'ingénieurs universitaires, etc. Donc, on a souvent fait le reproche aux universités d'être éloignées du monde professionnel. Bien là, on a la preuve que non. Ne serait-ce que les licences professionnelles, on voit qu'il y a eu un très grand développement de l'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Mais même en master, ça se développe de plus en plus.
Bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Très bonne soirée.
Merci.
Merci, bonsoir.
Au revoir.